إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث عن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى وها نحن وصلنا إلى الحديث الثالث عشر. Donc nous continuons toujours les cours autour des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah et aujourd'hui nous sommes arrivés au 13e hadith. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الحديث رواه البخاري ومسلم. Donc d'après Abu Hamza, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui fut le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Hadith rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. فلنبدأ أولا بترجمة راوي الحديث. Premièrement, commençons par une brève biographie du rapporteur du hadith. وراوي الحديث هو أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي أمه أم سليم الصحابية الجليلة. Donc le rapporteur du hadith, c'est Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il fait partie des Ansar, de la tribu de Khazraj, et sa mère est Umm Sulaym, femme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très célèbre. Wa kunyatuhu Abu Hamzata, wa hiya kunyatun kannahu biha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Et sa kunya est Abu Hamza, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui lui a donné cette kunya. له مناقب كثيرة منها أنس بن مالك رضي الله عنه a beaucoup de qualités et beaucoup de mérites que nous allons citer. من مناقبه أنه كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. Parmi ces mérites, c'est que Abu Anas radiyallahu anhu était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela pendant 10 ans. Depuis la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu Anas radiyallahu anhu qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-madinata wa ana ibn 10 sinin ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة وكنا أمهاتي يحثثنني على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الإمام مسلم. أنس رضي الله عنه nous dit, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم arriva à Médine, j'étais alors âgé de 10 ans, et lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم est mort, j'étais alors âgé de 20 ans. Et mes mères, mes tantes, m'encourageaient et insistaient pour que je sois au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. ويقول أنس رضي الله عنه ما مسست ديباجا ولا حريرا ألينا من كف رسول الله ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا والحديث رواه البخاري ورواه الإمام مسلم رحمهم الله. Et Anas ibn Malik رضي الله عنه nous dit: je n'ai jamais touché d'étoffe ni de soie plus doux que la pomme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, je n'ai jamais senti d'odeur plus agréable que l'odeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit ouf. Et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit pour une chose que j'ai faite, pourquoi l'as-tu faite? Et pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. Wa min manaqibihi radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam da'a lahu. Parmi les mérites de Anas, comme nous allons le voir dans les hadiths que nous allons citer, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations en sa faveur. Yaqulu Anas radiyallahu anhu qalat ummu Sulaym wa hiya ummuhu ya rasul Allah خادمك أنس أدعو الله له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه أنس رضي الله عنه ندي ما مر أم سليم أدي أو بروفيت صلى الله عليه وسلم أو بروفيت الله. Voici Anas, ton servant, fais des du'as en sa faveur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, accorde à Anas beaucoup de richesses et beaucoup d'enfants. Et accorde-lui la bénédiction dans ce que tu vas lui donner. Hadith rapporté par l'imam Bukhari. Yaqulu Anas radiyallahu anhu, ja'at bi ummi ummu Anas ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أنس ابني أتيتك به يخدمك فادع الله له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وكان أنس رضي الله عنه يقول فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون أي يبلغ عددهم على نحو 100 اليوم والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, Anas رضي الله عنه nous dit: ma mère m'a apporté chez le prophète صلى الله عليه وسلم. Et elle dit, ô prophète d'Allah, voici Anas mon fils, je l'ai apporté pour qu'il soit à ton service. Et invoque Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, accorde à Anas beaucoup d'enfants et beaucoup de richesses. Et Anas radiyallahu anhu disait, Allah m'a accordé énormément d'enfants et énormément de biens, au point où mes enfants et mes petits-enfants furent au nombre de 100 environ. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان من أعلم الناس بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Parmi les mérites de Anas رضي الله عنه, c'est qu'il faisait partie des gens qui connaissaient le mieux la description du prophète صلى الله عليه وسلم. Écoutez les hadiths suivants. قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا الحديث رواه البخاري ورواه الإمام مسلم وقال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس صححه شيخ الألباني في سنن ابن ماجه. Anas radiyallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne qui avait le meilleur comportement, le meilleur caractère. Et ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Et dans un autre hadith, authentifié par Sheikh al-Albani, il se trouve dans Sunan ibn Majah, Anas radiyallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des hommes, le plus généreux et le plus courageux. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في سكرات موت النبي صلى الله عليه وسلم. Parmi les mérites de Anas رضي الله عنه, c'est qu'il faisait partie des proches du prophète صلى الله عليه وسلم, ceci même au moment de la mort du prophète. يقول أنس رضي الله عنه كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح. أنس رضي الله عنه ندي au moment de la mort du prophète صلى الله عليه وسلم sa recommandation était la prière, la prière, faites attention à la prière, faites attention à la prière et à ce qui est en votre possession. وأنس رضي الله عنه هو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي هريرة رضي الله عنه وبعد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. روي له 2286 حديث منها 322 في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم. Et Anas رضي الله عنه faisait partie des compagnons qui ont apporté le plus de hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم après Abu Hurayra رضي الله عنه et après Abdullah ibn Umar. Il a été rapporté d'Anas radiyallahu anhu 2286 hadiths, dont 322 se trouvent dans l'authentique de l'Bukhari et l'authentique de l'imam muslim. وَتُوفِيَا رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ 93 وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ فِيهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَآخِرُ الصَّحَابَةِ وَفَاتًا عَلَى الْإِطْلَاقِ هُوَ أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةِ الليثي الذي توفي سنة 110 من الهجرة بمكة المكرمة. Et Anas رضي الله عنه est mort en l'an 93 de la Hijra du prophète صلى الله عليه وسلم. Il est le dernier des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم à mourir dans la ville de Basra qui se trouve en Irak. Et le dernier des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم à mourir, c'est Abu Tufayl, Amir ibn Wathila al-Layfi, qui est mort l'année 110 à la Mecque, après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada fima yata'allaku bi rawi al-hadith, wa huwa Abu Hamzata Anas ibn Malikin, khadimu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci concerne le rapporteur du hadith, qui est Abu Hamza Anas ibn Malik, celui qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالآن نتكلم عن منزلة الحديث. Maintenant nous allons voir ensemble l'importance de ce hadith. Pourquoi ce hadith est-il tant important au point que l'imam Nawawi rahimahullah l'a mis dans son recueil des 40 hadiths Nawawi. هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام. Ce hadith, comme les hommes de science disent, est un des fondements de l'islam. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. Ce hadith est un des fondements essentiels des règles de politesse. وحكى الإمام ابن صلاح رحمه الله عن عبد الله أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في زمانه أنه قال رحمه الله: جماع آداب الخير وأزمنته تتفرع من أربعة أحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث الثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم للرجل: لا تغضب. والحديث الرابع هو حديث اليوم، هو قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Et il a été rapporté d'après Ibn Sallah, rahimahullah ta'ala, d'après Abi Muhammad, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, l'imam est la référence des Malikites à son époque. Il a été rapporté la parole suivante: l'ensemble des règles de politesse relatives au bien découle de quatre hadiths. Le premier hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Deuxième hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait partie du bel islam de la personne de délaisser ce qui ne la préoccupe pas. Le troisième hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme: ne te mets pas en colère. Et quatrième hadith, c'est le hadith que nous voyons aujourd'hui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. وهذا الحديث أصل عظيم في محبة المسلمين والنصح لهم وإيثارهم ومعاملتهم كمعاملة النفس. Et les hommes de science sont d'accord pour dire que ce hadith est une référence dans le fait d'aimer le musulman, de lui porter conseil, d'avoir de l'affection et de la préférence pour lui, et de se comporter avec lui comme on se comporte avec sa propre personne. هذا فيما يتعلق بمنزلة الحديث. Ceci donc concerne l'importance du hadith. Quelques paroles de hommes de science concernant l'importance de ce hadith. والآن نرى ما يستفاد من هذا الحديث. Maintenant nous allons voir les leçons à retenir, les enseignements à retenir concernant ce hadith, et nous allons citer 11 leçons inshallah ta'ala. الفائدة الأولى أن في هذا الحديث نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن المسلم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه وذلك في أمور الدنيا والآخرة وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولكن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم؟ النفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم نفي لكمال الإيمان لا نفي لأصل الإيمان فالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم هو لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان وكماله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما هو مفسر في رواية أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير ومثل هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه والحديث في صحيح مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام الحديث رواه الإمام مسلم première leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que dans ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dénie la foi du croyant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « N'est pas croyant celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même », est-ce que cela veut dire qu'il n'a plus la foi, c'est-à-dire il est mécréant, ou est-ce que cela veut dire que sa foi n'est pas parfaite, sa foi n'est pas complète, à cause du fait qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ici, le hadith, sans divergence entre les hommes de science, le hadith veut dire n'est pas véritablement croyant, n'a pas complété sa foi, celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il n'aime pas pour lui-même. Et on retrouve le sens de ce hadith ou l'explication de ce hadith dans le Mousnad de l'imam Ahmed, où il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la personne n'atteindra pas la véritable foi jusqu'à ce qu'elle aime pour les gens ce qu'elle aime pour sa propre personne comme bien. Et on retrouve ce genre de hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple dit: n'est pas croyant, c'est-à-dire n'est pas véritablement croyant, n'a pas complété sa foi, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. C'est aussi le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: il n'y a pas de prière en présence de repas, c'est-à-dire il n'y a pas de prière complète en présence de repas, parce que la personne sera plus concentrée par sa faim et par le repas que par la prière. Et ces deux hadiths sont rapportés par l'imam muslim. Donc ici, il faut comprendre de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: n'est pas croyant celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, c'est-à-dire ne complète pas la foi, ne parfait pas sa foi, celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce que c'est clair? Al-fa'idatu thaniya. Ikhtalafa al-ulama'u rahimahumullah fi tawjihi an-nusus allati warada fiha nafyu al-iman عمن ترك محرما أو ترك واجبا كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وهذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. فهنا اختلف العلماء رحمهم الله في حكم مرتكب الكبائر، هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أم لا يسمى مؤمنا وإنما يقال هو مسلم فليس بمؤمن، وهما قولان معروفان عند أهل السنة والجماعة. وأما من قال هو مسلم من السلف فليس مراده تكفيره، إنما أخذ بظاهر النصوص التي تنفي عنه وصف الإيمان، ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين المعتزلة والخوارج الذين يسلبون عنه اسم الإيمان فيكفرونه، وبين المرجئة الذين يثبتون له اسم المطلق ويقولون هو مؤمن كامل الإيمان. Deuxième leçon à retenir concernant ce hadith qui est très importante, c'est que les savants, rahimahumullah, ont divergé sur le sens des textes lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: n'est pas croyant celui qui commet tel interdit ou celui qui délaisse telle obligation. Comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui commet l'adultère n'est pas croyant au moment de faire l'adultère. Celui qui vole n'est pas croyant au moment de voler. Et celui qui boit le vin n'est pas croyant au moment de boire le vin. Comment comprendre ces hadiths? Ici, les hommes de science ont divergé sur le cas de celui qui fait les grands péchés. Doit-on l'appeler croyant avec une foi diminuée, ou bien doit-on l'appeler musulman, c'est-à-dire qu'il n'a plus le nom de croyant, de mu'min? Et il faut savoir que ces deux avis sont deux avis retenus chez les hommes de science. C'est-à-dire que certains hommes de science considèrent que celui qui fait des grands péchés, on peut l'appeler croyant, mais il est croyant à la foi diminuée. Il est croyant et en même temps, il est désobéissant à cause de ce grand péché. Et d'autres savants ont dit, il n'est pas croyant, mais il est seulement musulman. Puisque les textes disent, n'est pas croyant celui qui commet l'adultère au moment de commettre l'adultère. Mais ici, il y a une remarque très importante à dire. C'est que ceux parmi les salafs salih qui donnent le nom de musulman à celui qui commet des péchés, cela ne veut en aucun cas dire qu'ils le considèrent comme mécréant. C'est pas parce qu'ils ne l'appellent pas mu'min croyant que pour autant ils le qualifient comme incroyant, mécréant. Ils disent c'est un musulman. Et la voix des Ahl Sunna wal Jama'a, c'est une voix du juste milieu. Les gens de la Sunna wal Jama'a sont dans le juste milieu entre deux extrêmes. L'extrême des Mu'tazila et des Khawarij, qui sont deux sectes qui considèrent que celui qui commet des grands péchés n'est plus croyant. Les Mu'tazila vont dire de lui, il n'est ni croyant et il n'est ni kafir. Il est entre les deux. Et les Khawarij vont dire, c'est un kafir. C'est ni un croyant, c'est ni un musulman, c'est un mécréant. Et les gens de la Sunna wa Jama'a sont loin aussi d'une deuxième extrême, d'un deuxième groupe qui sont un autre extrême, qui s'appelle Al-Murji'a, qui eux considèrent la personne qui commet des grands péchés, elle le considère comme étant un croyant dont la foi est complète. C'est-à-dire, son péché n'entache pas sa foi. Est-ce que c'est clair ? الفائدة الثالثة أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان فمنهم كامل الإيمان ومنهم ناقص الإيمان وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة. Troisième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que les croyants sont différents dans leur niveau de foi. Certains ont une foi complète, alors que d'autres ont la foi diminuée. Et ceci est la voix des gens de la Sunna wal Jama'a, qui disent que la foi augmente et la foi diminue. La foi augmente avec l'obéissance et la foi diminue avec les désobéissances. Al-Fa'idatu al-Rabi'a. وجوب محبة المسلم لأخيه ما يحب لنفسه لأن نفي الإيمان بفعل دل على وجوب هذا الفعل وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Quatrième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est l'obligation pour le croyant d'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Car le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « n'est pas croyant celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même », ceci prouve qu'aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même est obligatoire. Ou sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais dénié la foi de cette personne, dans le sens la foi complète. Al-fa'idatul khamisa. أن الحديث دل على أن من خصال الإيمان أن يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه وأنه لا يمكن أبدا لا يمكن للمؤمن أن يعتدي على أخيه المؤمن في ماله أو عرضه أو أهله لأنه لا يحب أن يعتدي أحد عليه بذلك فإذا زل ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك. Ici, cinquième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que ce hadith prouve qu'aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même et détester pour son frère ce qu'on déteste pour soi-même fait partie des branches de la foi. Et qu'il est impossible pour un croyant de nuire au bien, à l'honneur et à la famille d'un autre croyant. Car lui-même n'aimerait pas qu'on nuise à ses biens, à sa famille ou à son honneur. Donc si cette qualité n'existe pas chez le croyant, alors cela montre que sa foi est diminuée. Al-fa'idatu as-sadisa. Anna fi hadha al-hadith الحث على محبة الخير للمسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. Sixième leçon concernant ce hadith. C'est que ce hadith nous incite en réalité à vouloir du bien pour les musulmans. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam établit une relation de cause à effet entre le fait de vouloir du bien pour le musulman et d'entrer au paradis. Quelle est la preuve ? Quelle est la preuve de ce que nous sommes en train de dire ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, que celui qui veut s'éloigner du feu et entrer au paradis, qu'il croit en Allah et au jour dernier, au moment de la mort, et qu'il se comporte avec les gens comme il aimerait que les gens se comportent avec lui. Parmi les actes qui font qu'une personne méritera d'entrer au paradis et d'être éloignée de l'enfer, c'est le fait de se comporter avec les gens comme tu aimerais que les gens se comportent avec toi. Al-fa'idatu sabi'a. أن في هذا الحديث الحث على تقوية الروابط بين المسلمين، وأن الأمة يجب أن تكون يدا واحدة وقلبا واحدا. وجاء معنى ذلك في حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. Septième leçon concernant ce hadith, c'est que ce hadith nous pousse à renforcer les liens de fraternité qui existent entre les croyants, et que les musulmans doivent être un seul corps et un seul cœur. Et on retrouve le sens de cette parole dans le hadith rapporté par Nu'man ibn Bashir, et ce hadith se retrouve dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'exemple des croyants dans leur affection, dans leur amour et dans leur compassion les uns envers les autres, c'est comme l'exemple d'un corps. Dès que l'un de ses membres se plaint, alors tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et par la fièvre. Ainsi doivent être les musulmans les uns envers les autres. الفائدة الثامنة: التحذير من أن يحب للمسلمين ما لا يحب لنفسه لأنه ينقص بذلك إيمانه. Huitième leçon concernant ce hadith, c'est que dans ce hadith, il y a une menace et une mise en garde que la personne aime et souhaite pour les musulmans ce qu'il n'aime pas pour lui-même. Et agir ainsi fait diminuer la foi. الفائدة التاسعة: التحذير من الحسد والغل والغش، وأن صاحب الغل والغش والحسد لا يحب لأخيه الخير، بل يتمنى له زوال نعمة الله عنه أو يكره ما أنعم الله عليه به. Neuvième leçon concernant ce hadith, c'est que ce hadith nous met en garde contre la jalousie, la duperie, la perfidie, l'animosité et la haine contre les musulmans. Car le fait d'être jaloux, ou d'être perfide, ou d'être haineux, ou plutôt le jaloux, le perfide et le haineux, ne peut aimer pour son frère le bien. Au contraire, il déteste le voir baigné dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il souhaite même voir ses bienfaits, les bienfaits d'Allah, disparaître de son frère. Ça, c'est le cas du jaloux. الفائدة العاشرة: إذا رأى المؤمن غيره فاق عليه في فضيلة فتمنيه لها لنفسه له حالة. Dixième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que lorsque le musulman ou le croyant voit chez son frère une qualité, un mérite, peut-il désirer avoir cette qualité et ce mérite? Il existe deux cas, deux situations. Dans la première, c'est permis et même recommandé. Dans la deuxième, c'est déconseillé et ce n'est pas permis. Quel est le premier cas ? إذا كانت تلك الفضيلة دينية كالعلم والعبادة وحفظ القرآن الكريم وغيرها استحب له أن يتمنى ذلك كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه منزلة الشهادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار الحديث رواه الإمام مسلم. Quel est le premier cas, c'est-à-dire lorsqu'on voit une qualité ou un mérite chez son frère? Le premier cas est celui-là. S'il s'agit d'une qualité religieuse, c'est-à-dire cette personne a de la science, cette personne est constante dans l'adoration d'Allah, ou cette personne a un bon comportement, alors il est permis, il est même recommandé de souhaiter d'avoir cette qualité et de désirer cette qualité qui existe chez son frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même souhaitait le martyr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim, il n'y a de jalousie que dans deux cas. Le premier cas, c'est un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné des biens et des richesses et cette personne les dépense de jour et de nuit. On peut être jaloux de cette personne. Deuxième cas, c'est le cas d'un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le Coran et cette personne lit le livre d'Allah de jour comme de nuit. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. On peut être jalouse de cette personne, c'est-à-dire souhaiter avoir cette qualité et en aucun cas souhaiter que cette qualité disparaisse de notre frère. Voici ici le sens du mot jalousie. Quel est le deuxième cas ? إذا كانت تلك الفضيلة دنيوية فلا خير في تمنيها كما ذم الله عز وجل قوم قارون يقول الله عز وجل فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Deuxième cas, lorsqu'on voit une qualité ou un mérite chez une personne, si cette qualité ou ce mérite, il s'agit d'une qualité qui a trait à cette vie. Par exemple, cette personne a beaucoup d'argent, cette personne a beaucoup de biens. À ce moment-là, il n'y a aucun bien ni aucun intérêt à souhaiter à être comme cette personne. Et Allah Azza wa Jal nous mentionne dans le Coran al-Karim l'histoire de Qaroun et de son peuple. Qaroun, c'était un homme tellement riche que pour porter les clés qui ouvrent les trésors, les mâles, il devait avoir un groupe de personnes qui portent les clés, tellement il était riche. Et lorsque les gens ont vu cette richesse, certains ont souhaité être comme lui. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et Qaroun sortit à son peuple dans tout son apparat. Et ceux qui aimaient la vie présente dirent, si seulement nous avions ce qui a été donné à Qaroun comme richesse. Il a été doté, certes, d'une grande fortune. Il a de la chance. Et Allah Azzawajal dit, alors que ceux à qui Allah Azzawajal a donné la science et le savoir, ils ont dit, certes, la récompense d'Allah Azzawajal est meilleure pour celui qui croit et qui fait le bien. Regardez la différence entre ceux à qui Allah a donné la science et la foi, des gens de la vie présente. Allah Azza wa Jal nous informe que Qaroun a été puni par Allah subhanahu wa ta'ala et il a été plongé dans un trou, et ce jusque la fin des temps. Et les gens qui avaient souhaité être comme lui ont dit, Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, nous n'avons pas été comme lui et Allah ne nous a pas accordé des biens comme lui. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. الفائدة الأخيرة أن محبة الخير للغير لا تنافي أن يتكون المصارعة والمسابقة والتنافس في الخير لأن الإيثار في الطاعات مكروه. Onzième et dernière leçon concernant le hadith d'aujourd'hui, c'est qu'aimer le bien pour son frère n'est pas en contradiction au fait de se concurrencer. de se devancer et de s'empresser dans l'obéissance d'Allah Azzawajal et dans le bien. Ce n'est pas contradictoire. Car donner préférence aux autres dans les actes d'adoration est déconseillé dans notre religion. Par exemple, puisqu'avec les exemples, les paroles s'éclaircissent, imaginons des personnes venant à la mosquée et il y a des places de vide dans le premier rang. Et la personne dit à son frère, Bismillah, tafaddal, prends la place. Ici, c'est déconseillé de faire ça. Il faut que tu devances ton frère et tu prennes cette place. Ou par exemple, dans le rang, il y a un espace et tu dis à ton frère, Bismillah, tafaddal. Dans ce cas-là, il faut devancer ton frère avec miséricorde et avec compassion. Parce que la préférence dans les actes d'adoration, elle est déconseillée. Voilà pour ce qui est du hadith d'aujourd'hui. Donc on va le relire une dernière fois. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الحديث رواه البخاري ورواه الإمام مسلم رحمه الله. Donc selon Abu Hamza Anas ibn Malik radiyallahu anhu, un des servants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est pas véritablement croyant, n'a pas complété sa foi, celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.